Radio Grenouille.
Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Chat, le rendez-vous politique du Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Chez Michèle Rivasi, députée européenne, vice-présidente du groupe Les Verts, membre de la commission santé publique du Parlement européen, entre autres, qui nous accompagne. À mes côtés, pour vous interroger, Michel Guéraud. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Michèle Rivasi.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Au commencement, il y a une explosion. Celle, il y aura tout juste 30 ans le mois prochain, de Tchernobyl. Vous vivez alors tout près d'une autre centrale nucléaire, le Tricastin. Les autorités françaises nient les retombées radioactives qui impactent pourtant l'Europe entière. Face à ce mensonge d'État, vous cofondez la CRIRAD, le premier laboratoire indépendant d'analyse de la radioactivité, désormais mondialement reconnu. Depuis cette date, vous êtes la bête noire de l'oligarchie de l'atome. Avant que le cœur du réacteur ukrainien n'entre en fusion, vous avez eu une vie. Né dans la Drôme, de brillantes études vous mènent à Normalsup. Agrégée de biologie, vous êtes aussi enseignante. Votre entrée en politique remonte à 1997 où, avec le double parrainage du PS et des Verts, vous êtes élu député. Vous ne faites qu'un seul mandat à l'Assemblée nationale, mais vous siégez au Parlement européen depuis 2009. Vous êtes toujours affilié à Europe Écologie Les Verts. Il y a des échecs dans votre parcours, une conquête ratée de la mairie de Valence, un passage éclair à la présidence de Greenpeace France. Il y a aussi la réaction en chaîne de vos engagements, où vous témoignez d'une persévérance et d'un activisme peu commun dans les assemblées politiques. Avec la création du CRIREM, le Centre indépendant sur les rayonnements électromagnétiques, vous prenez de front les puissants intérêts de l'industrie de la téléphonie. En publiant l'an dernier un brûlot sur le racket des laboratoires pharmaceutiques, vous engagez une bataille contre un nouveau lobby. Mais je voudrais pour conclure dire un mot sur un phénomène troublant. Même sans compteur Gégère, je peux témoigner que votre détermination irradie ce studio. Je vous pose donc franchement la question. Après vos voyages à Tchernobyl et dans le Japon de Fukushima, seriez-vous dopé à l'uranium?
Michel Rivasi, un commentaire à ce portrait à la sauce Ravi?
Oui, mais écoutez, je l'accepte ce commentaire et je suis toujours aussi déterminée à donner le pouvoir au niveau des gens, des associations et vraiment me bagarrer contre les lobbies. Vous voyez, j'ai connu le lobby nucléaire, mais le lobby pharmaceutique, le lobby chimique à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe sur les pesticides. Vous voyez que là-dessus, c'est assez incroyable comme ils s'immiscent comme des pieuvres là pour essayer d'acheter des gens, alors jouer au clientélisme, vous connaissez bien ça à Marseille, et c'est assez incroyable.
On aura l'occasion d'en parler, voilà qui nous amène directement au cœur de l'actualité, comme le disait Michel Guéraud tout à l'heure, 30 ans après Tchernobyl, 5 ans après Fukushima, quelles leçons pour le nucléaire au niveau européen et en France en particulier, Michel Rivasi?
Eh bien, la leçon, c'est que tout ce que disaient les écologistes depuis de très nombreuses années, ben, vous voyez que ça se réalise à l'heure actuelle.
Alors pourtant, Michel Rivasi, 66 réacteurs nucléaires en construction dans le monde, je crois que c'est un record depuis un quart de siècle. Après Fukushima, on a cru qu'il allait y avoir une prise de conscience mondiale d'une difficulté avec le nucléaire. Le Japon, c'était pas la Russie, c'est un pays très développé. Et voilà. On est 5 ans plus tard, l'industrie nucléaire se développe, n'est pas remise
en cause. Non, elle ne se développe pas du tout. Vous voyez, les gens du nucléaire parlaient toujours de renaissance du nucléaire, mais pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques réacteurs qui sont en construction que c'est reparti pour un tour. Regardez en Europe, après Fukushima, vraiment un des pays qui a montré un peu la voie, c'est l'Allemagne. Quand l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, eh bien là, ils sont vraiment... ils ont toute une dynamique du développement des énergies renouvelables, même s'ils ont aussi des centrales à charbon. Mais pour eux, le charbon, c'est un peu la transition, vous voyez, pour passer vraiment à 100% sur les énergies renouvelables.
Et vous avez eu la Suisse. Le Japon n'a pas à relancer sa filière nucléaire. La Russie en construit des
centrales. Alors, le Japon, ils ont 42 réacteurs. Il n'y en a que 3 qui sont en fonctionnement. Un quatrième devait l'être et puis s'est arrêté très rapidement. Parce qu'il y a un Premier ministre qui est vraiment pro-nucléaire de façon incroyable. Aux États-Unis, c'est complètement arrêté. En Russie, ils essaient de vendre leurs réacteurs aux atomes en essayant de... pour la Hongrie et la Pologne. Mais si vous voulez, quand je vous dis que les écolos avaient raison, quand ils disaient d'abord le nucléaire est très cher et ça ne marche pas parce que quand c'était subventionné par l'État, on l'a bien vu en France, l'État a investi des milliards, voyez, d'euros pour la construction des réacteurs. Mais maintenant, comme ça passe au privé et qu'il faut que les banques avancent l'argent, elles ne veulent pas l'avancer. Quand on voit le budget d'EDF, mais il est complètement au rouge. Quand vous voyez qu'Areva est à deux doigts de la faillite, dans la mesure où le nucléaire, au fur et à mesure, coûte de plus en plus cher, parce qu'il y a la gestion des déchets radioactifs, il y a le démantèlement. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, quand Ségolène Royal a annoncé l'allongement de la durée de vie des centrales, c'était pour laisser 10 ans à EDF, vous voyez, pour pas qu'il commence à démanteler ses centrales et avec toute la problématique de la gestion du nucléaire.
Selon la Cour des comptes, c'est 100 milliards le prolongement des centrales nucléaires françaises.
Oui,
on alors rappelle EDF, qu'il y a 58 réacteurs en France.
Tout à fait. EDF a annoncé 55 milliards et la Cour des comptes a dit 100 milliards d'ici 2030. Parce que après Fukushima, il y a eu, si vous voulez, une remise en cause un peu des standards du nucléaire. Et si on veut maintenir nos réacteurs, il faut qu'on réinvestisse, c'est ce qu'on appelle le carénage, c'est-à-dire que les réacteurs nucléaires ne sont pas aux nouveaux standards que fixe la Commission européenne. Donc, de deux choses l'une, et moi j'avoue que la déclaration de Ségolène Royal a mis le feu aux poudres par rapport aux Suisses qui attaquent la France par rapport à la centrale du Bugey.
Rappelons quand même que les Suisses aussi ont des centrales nucléaires.
Ils ont des centrales, dont deux très anciennes d'ailleurs de 45 ans, sauf que, si vous voulez, ils avaient l'espoir... par rapport aux déclarations de François Hollande. Quand François Hollande a dit « on va faire plus de mix énergétique et on va diminuer la contribution de l'électricité de 75% qui dépend du nucléaire à 50% », il y avait l'annonce de réacteurs, de fermeture de réacteurs nucléaires. Et notamment, la Cour des comptes a bien dit aussi qu'il fallait, en 2025, fermer entre 17 et 20 réacteurs nucléaires. Or, à l'heure actuelle, que ce soit les Allemands, les Luxembourgeois, les Suisses, ils se disaient « bon, les vieux réacteurs, c'est qui ? C'est Fessenheim, puisqu'il y avait quand même l'annonce de la fermeture de Fessenheim. C'est le Bugey. Caténome a pas mal de problèmes, donc ils se disaient, bon, voilà, on va attendre, mais ils vont finir par les fermer. Mais la durée de rallongement, vous voyez, de la durée de vie des réacteurs, fait qu'il n'y a toujours aucun réacteur qui a été fermé. Et là, ils sont très inquiets, d'autant plus qu'il y a eu des incidents, on ne dit pas tout. Vous voyez, ce qui caractérise le nucléaire, c'est toujours l'opacité. C'est toujours le fait de dire, mais non, c'est pas grave, c'est des incidents, etc. Alors que souvent, il y a la sûreté nucléaire qui peut être en jeu. Et quand j'entends même le directeur de l'autorité de sûreté nucléaire, M. Chevet, qui dit, on s'attend à un accident dans les années qui viennent. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que maintenant, il y a des gens qui commencent à dire, ben, on va faire un peu de la pédagogie. Et je le vois sur Fukushima. Vous voyez, les gens qui reviennent, on leur dit, on va vous apprendre à vivre avec des terrains contaminés. Et ça, c'est dramatique. En plus, on a voté à l'Europe des normes qui acceptables, si vous voulez, sur la contamination des aliments, mais qui sont énormes. Et je ne comprends pas. Alors moi, je suis en guerre hein, en ce moment avec la Commission européenne, parce que j'étais rapporteur de ce règlement qui fixe des niveaux très élevés sur la contamination des aliments dans le lait, les végétaux, etc. Et quand j'ai demandé à rencontrer les experts du traité Euratom, vous voyez, c'est le traité Euratom, c'est différent du traité de Lisbonne, ils ne sont pas venus. Quand j'ai demandé le nom de ces experts, on m'a dit c'est confidentiel défense. Et donc, vous voyez que le nucléaire, c'est toujours lié à ce manque de transparence, d'opacité.
Démocratie nucléaire, c'est...
C'est incompatible. Et puis, après, il y a le coût du nucléaire. Et puis, il y a les risques. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, Tchernobyl, alors, je voulais vous donner les éléments très négatifs, c'est sur la santé. 30 ans après l'accident de Tchernobyl, on pense que c'est fini. Eh bien,
il y a des débats sur l'impact aussi de ces deux catastrophes, hein, Fukushima et Tchernobyl. Il y a des débats sur combien de victimes. Vous êtes allé au Japon, vous êtes allé sur place à Tchernobyl. Qu'est-ce que vous dites sur la conséquence, nombre de victimes, nombre de personnes impactées?
Là-dessus, il y a une polémique incroyable, mais en tout cas, les 800 000 liquidateurs à Tchernobyl, il y a eu énormément de morts, de leucémie, de cancer, de maladies terribles. D'ailleurs, lisez le bouquin de Slevana qui a reçu le prix Nobel, c'est assez incroyable. Et alors, moi, ce que j'ai fait, parce que vous voyez, quand j'ai créé la CRIRAN en 86, quand j'ai été députée européenne, je me suis dit, il faut aider les victimes. Parce que l'Europe aide énormément la rénovation et vous voyez le grand shelter là, qui recouvre maintenant le réacteur de Tchernobyl. On a investi des millions d'euros, même des milliards, et rien sur les victimes. Et il y avait un amendement des Verts qui disait qu'il fallait aider les victimes. Moi, j'ai pris cet amendement, je suis allée voir les gens de la Commission, notamment la Direction Générale de l'Énergie, et j'ai dit, maintenant, il faut investir dans les victimes. Et il y a un petit village qui s'appelle Ivankov, où des gens, il y a à peu près 10 000 personnes qui vivent en terre contaminée. On a rénové l'hôpital et on suit à l'heure actuelle entre 2 000 et 3 000 gamins dans cette région donc d'Ivankov. Eh bien, ces gamins qui sont de troisième génération, ils ont énormément de problèmes. Ils ont des problèmes cardiovasculaires. Vous voyez, quand on fait du sport, ils ne peuvent pas courir. Ils ont des problèmes du système immunitaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas lié à la contamination et les radiations, même s'il y a toujours la contamination des aliments, mais il y a des conséquences. Et à Fukushima, eh bien maintenant, ça y est, on voit une augmentation de cancer de la thyroïde chez les jeunes, voyez, en dessous de 18 ans. Il y a des cas de leucémie qui ont été, où on a fait la relation de causalité entre l'irradiation, contamination et ces cas de leucémie. Donc c'est que le début, hein, à Fukushima.
Et pourquoi on n'arrive pas à chiffrer, même avec le recul, c'est le cas avec Tchernobyl?
Alors pourquoi on n'arrive pas à chiffrer? Parce que c'est là aussi, vous voyez, l'opacité du nucléaire. Par exemple, à Tchernobyl, il y a eu des tas d'études qui ont été financées par la Commission. Moi, j'ai regardé toutes ces études. Et dans les rapports d'activité, soit il est donné, ou soit, comme l'IRSN, n'a pas donné son rapport d'activité. Ils avaient suivi des gamins, par exemple, au Bélarus, qui avaient été particulièrement touchés. Parce que quand c'est pris par les gens du nucléaire, ils ne diffusent pas les données. Vous voyez, ils ne veulent pas reconnaître. Donc, il y a une confidentialité, en quelque sorte. Et à Fukushima, il y a eu aussi une loi qui interdit aux médecins à fournir les données parce que ça allait alarmer la population. Donc, vous voyez, ils se bétonnent, en fait, ces gens. D'une part, ils ne vous donnent pas toute l'info. Après, quand il y a des médecins qui veulent essayer de faire des études, eh bien, soit ils n'ont pas le droit, sinon ils peuvent être attaqués. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai créé, moi, on a rénové cet hôpital à Ivankov. Et c'est Yuri Banazeski qui fait les études avec des scientifiques ukrainiens pour que, au moins, j'ai accès à l'info. Mais moi, je ne fais absolument pas confiance, que ce soit l'IRSN, OCEA, Areva, encore moins, ou d'autres organismes, si vous voulez, qui travaillent dans le nucléaire en Europe, parce que je suis persuadée, et j'ai pu le constater, qu'ils ne donnent pas toute info.
En étant cynique, on peut dire qu'au fur et à mesure des accidents, les normes de sécurité augmentent malgré tout.
Alors,
vous dites des choses très fortes. Est-ce que c'est crédible? Vous dites la maîtrise des risques en nucléaire est impossible.
Ben, on ne peut pas maîtriser tous les risques. Ça, c'est sûr. Regardez Fukushima. Qui aurait pensé que, entre le tsunami, entre le séisme, il y ait l'accident nucléaire?
On peut aussi penser que TEPCO, qui gérait Fukushima, est moins fiable qu'EDF, qui a des normes ou une culture du dialogue qui est un peu différente, ou de la transparence qui est un peu différente.
Écoutez, on a eu des pépins aussi en France. Alors bien sûr, il n'y a pas eu d'accident, mais c'est très difficile d'avoir accès à l'info. En tout cas, maintenant que la Commission européenne a repris un peu le pouvoir, quand elle a fait ses stress tests, c'est-à-dire qu'elle a évalué les centrales en Europe par rapport à ce qui s'était passé au niveau de Fukushima, eh bien, on a augmenté les standards parce qu'on s'est aperçu qu'on raisonnait, vous voyez, un aléa après l'autre. Comme s'il y avait, par exemple, que l'inondation, mais il ne pouvait pas y avoir un séisme, il ne pouvait pas y avoir une rupture de digue. Parce que c'est toujours un effet domino. Et c'est pour ça qu'on a augmenté les normes. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'Europe, effectivement, les standards sur la sûreté nucléaire sont meilleurs qu'avant l'accident de Fukushima. Sauf que tous les travaux n'ont pas été faits. Puisque vous avez vu à Caténome, par exemple, quand les Allemands commencent à attaquer la France sur Caténome, eh bien, on va réinvestir 200 millions d'euros, par exemple, en 2016 sur Caténome. Et donc, ça veut dire que les standards qui sont demandés ne sont toujours pas faits.
Alors, il y a quelques jours, il y a une note interne d'EDF qui a circulé, disant, actant l'état dégradé des centrales, avec 44% d'entre eux sont classés comme... ce sont les générateurs pour refroidir, je crois.
Oui, c'est les groupes électrogènes.
44% sont dans un état dégradé, c'est ça, et 13% dans un état inacceptable.
Exactement.
Selon EDF. Hein,
c'est une note interne EDF qui montre que, parce que ces groupes électrogènes, ils sont très importants. Si demain, par exemple, il y a un incident, vous voyez, toutes les armoires électriques sautent, ce qui s'est passé d'ailleurs à petit niveau, mais à Fessenheim, eh bien, il faut pouvoir refroidir le cœur du réacteur. Et qui refroidit le cœur du réacteur? Vous voyez, il faut avoir une source d'alimentation. Et c'est ces groupes électrogènes. Si on apprend par cette note interne qu'il y a énormément de groupes où on n'est pas sûr qu'ils démarrent, vous voyez, quand on en a besoin, alors là, vous arrivez à la fusion du cœur. Et la fusion du cœur, c'est une explosion d'hydrogène, et puis il peut y avoir une contamination radioactive. Donc, vous voyez bien que quand on regarde dans le détail, ça demande énormément d'argent, la sûreté nucléaire.
Mais justement, à ce propos, Michel Rivasi, EDF est dans une situation financière qui est
terrible.
Plutôt compliquée. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour entretenir toutes ces centrales. Or, si on n'a pas les moyens, ça veut dire qu'on fait des choix, des sacrifices sur l'entretien, la maintenance. Est-ce qu'on prend des risques, là?
Mais bien sûr. D'abord, on prend des risques humains. Parce que regardez tous les sous-traitants dans le nucléaire. Ils sont payés à coups de lance-pierre et ils ont une vie incroyable. Et en plus, on va regarder qu'est-ce qui est le plus rentable. Et donc, on va jouer à la fois sur la sécurité, on va jouer, vous voyez, parce que la première des sécurités dans une centrale, c'est quand même les gens. Si les gens ne sont pas bien, ou s'ils viennent de partout et qu'ils n'ont pas une bonne formation et qu'on n'a pas tous les maillons de la compétence sur le nucléaire, eh ben, vous risquez un accident de façon importante. Donc, moi, je suis... Et quand vous me dites le budget d'EDF, mais attendez, entre le carénage 110 milliards d'euros, entre le fait qu'on ne veut pas fermer les vieux réacteurs, on va investir dans les vieux réacteurs, entre le fait que le démantèlement des réacteurs, vous voyez qu'on n'a pas commencé, on est juste... Il y a eu Brennilis comme petit réacteur de recherche, on n'a toujours pas... On n'est pas mis au niveau de, du gazon, comme ils disent. On commence à démanteler les graphites gaz, mais on ne savait pas où stocker les vieux graphites. On va le faire, d'ailleurs, au niveau du budget. Mais et la gestion des déchets, on veut faire un site d'enfouissement à Cigéo à Bure, ça va coûter de bagatelle, alors c'est entre 25 et 34 milliards d'euros, mais on va les trouver où? En plus, on veut construire deux EPR en Angleterre, au bas mot c'est 23 milliards, alors je viens d'en apprendre une, pour vous c'est un scoop parce que c'est encore pas sorti. On demande aux Chinois de nous aider, donc EDF va investir 15 milliards, les Chinois vont investir la suite. Eh bien, EDF a donné un terrain en Angleterre pour que les Chinois fassent leur propre réacteur. Donc, c'est quand même incroyable, ça. Et après, on nous dit, mais le nucléaire n'est pas cher. Alors, pourquoi il n'est pas cher, le kilowattheure nucléaire? Parce que c'est l'État qui impose le prix à EDF de ne pas l'augmenter.
Le PR, c'est censé être le réacteur, la génération du futur, c'est
ça? La génération du futur, dites-vous qu'en Finlande, il n'a toujours pas démarré. On a plus de 10 ans de retard. Il coûte une fortune. À Flamanville, vous avez vu toutes les problématiques qu'il y a, ça coûte une fortune. Les deux seuls qui vont peut-être démarrer en 2016, c'est les Chinois, mais on n'a aucune garantie sur la sûreté nucléaire.
D'accord. Un mot peut-être sur le Tricastin, qui est la centrale la plus proche de l'endroit où se trouve ce studio radio. Le Tricastin, vous la connaissez bien, cette centrale, vous habitez à côté. Qu'est-ce qu'on peut en dire de particulier? Déjà, pour les Marseillais, le Tricastin, c'est très loin, mais pour un nuage radioactif, on est à portée de... Est-ce qu'on fait du catastrophisme quand on dit que Marseille, par exemple, en cas d'accident majeur au Tricastin, serait impacté?
Mais bien sûr. S'il y a le Mistral, surtout qu'il faut savoir quand même que le Tricastin, c'est un des plus vieux réacteurs après Fessenheim, qu'il y a des fissures au niveau de la cuve, et que quand vous voyez même que l'autorité de sûreté nucléaire avait demandé au niveau de l'État d'augmenter son budget parce qu'il manquait d'experts, ben vous voyez qu'on leur a octroyé seulement 30 experts nouveaux, mais ils en demandaient une centaine. Vous dites, mais comment on va gérer ça? Et si demain, il y a un accident au Tricastin et un fort Mistral, eh bien, vous avez toutes les particules radioactives qui vont être sur Marseille. Quand Tchernobyl, c'était à plus de 2000 km et on a été impacté. Regardez, dans tout le sud-est, en Corse, il y a eu quand même une augmentation des cancers de la thyroïde. Moi, j'ai fait des mesures et je peux en témoigner. Il y avait quand même, dans certains secteurs où il avait énormément plu, vous voyez, ça avait précipité les particules radioactives au niveau du sol. Et ben, les légumes étaient contaminés, les plantes aromatiques étaient contaminées, les champignons, etc., etc. C'est ça qui est terrible, c'est que on a une épée de Damoclès. Et nous, les écologistes, on est pour une fermeture progressive des réacteurs. Et ensuite, quand on ne va pas investir, vous voyez, pour remettre à niveau des vieux réacteurs, ben on les investit dans les énergies renouvelables. C'est ça la garantie de notre souveraineté.
Fermeture progressive, c'est facile à dire, mais c'est très compliqué à faire. On a vu que l'Allemagne, qui avait pris la décision de sortir du nucléaire un peu rapidement, avec la catastrophe de Fukushima, qui doit sortir d'ici 2022, a énormément de difficultés pour le faire.
Non, elle n'a pas énormément de difficultés. Vous ne vous rendez pas compte. D'abord, ils sont à 33% de renouvelables pour la fabrication d'électricité.
Grosse masse de charbon, quand même.
Voilà, ils ont... quelques centrales nucléaires qui continuent, vous voyez, le temps de les fermer. Et ils ont des centrales à charbon, dont certaines sont très récentes. Et pour eux, le charbon, c'est l'énergie de transition. Alors moi, je préférais que ça soit plutôt le gaz, parce que vous voyez, c'est moins polluant au niveau du CO2. Mais vraiment, la volonté, que ça soit des Verts allemands, mais aussi du CDU, hein, qui est le parti de Mme Merkel, ou du SPD, ils sont tous maintenant sur la sortie. Et écoutez, quand je vois l'emploi que représentent les énergies renouvelables, quand vous allez en Allemagne, vous allez à Fribourg, dans n'importe quelle ville, vous avez une innovation sur l'architecture. Vous voyez, ils intègrent, que ça soit le photovoltaïque, ils intègrent la biomasse. Les agriculteurs, vous voyez, ils sont associés à faire, par exemple, du méthane qui sert aussi pour les automobiles ou pour le chauffage. Vous voyez, ils poussent à la création, à l'innovation. Nous, on est empêtrés complètement dans notre nucléaire. Il nous coûte très cher. Si on veut qu'il n'y ait pas d'accident en France, il faut énormément investir. Et puis, ben, on n'est plus sur les nouveaux marchés qu'on pourrait exporter en Afrique. Vous voyez, hier, moi, j'ai eu une réunion à Bruxelles avec énormément de pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ils ne demandent pas de nucléaire, ces gens-là. Ils demandent des énergies renouvelables. La France, à un moment, était assez bonne sur l'éolien, le photovoltaïque. Alors, on est assez bon maintenant sur l'hydrolien. Vous voyez, c'est
des éoliennes en offshore.
Des éoliennes, vous voyez, qui sont donc dans les courants marins.
Dans les courants marins.
Et ça, c'est génial. Vous voyez, l'île d'Ouessant qui est en train d'investir là-dedans, eh bien, elle pourrait être complètement autonome. Et en plus, ce n'est pas du tout alternatif. C'est un courant continu. Donc, c'est ça, moi, que je veux essayer de développer. Et en plus, on est complètement indépendant des réserves d'uranium qu'on va chercher au Niger, en Australie ou au Canada. Et en plus, il n'y a pas le risque d'accident. Un accident, si les gens peuvent se l'imaginer... Vous voyez, moi, quand je suis allée à Fukushima, quand j'ai vu la détresse de ces gens qui sont obligés de partir, qui voient tout leur patrimoine, surtout les Japonais sont très attachés, vous voyez, à leur patrimoine, à leur terre, à leurs animaux, etc. De tout laisser à l'abandon comme ça, de voir après tous ces animaux qui errent et tout. Mais vous dites, mais c'est quoi? C'est pas de l'avenir, c'est de la mort qu'ils sont en train de continuer à faire. Alors, c'est pour ça que vraiment, il faut qu'on en sorte de ce nucléaire.
Alors vous dites, en France, vous utilisez des expressions assez fortes, vous dites, il y a une omerta de l'industrie nucléaire sur l'État français. Vous parlez du corps des mines qui noyote le cœur de l'État français. En dehors des verts qui sont assez fragilisés, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission en France, la parole anti-nucléaire, le discours contre le nucléaire est très, 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 très marginal dans ce pays. On ne sent pas non plus l'opinion publique très mobilisée sur ce dossier.
Alors, sur le plan européen, les gens deviennent de plus en plus anti-nucléaires. On l'a vu, hein, les Italiens, ils ont fait un référendum, ils sont contre le nucléaire, les Autrichiens, les Luxembourgeois, les Allemands maintenant. Enfin bon, donc on sent cette dynamique. Mais c'est vrai que pour la France, c'est très difficile, puisque EDF est un État dans l'État. Quand, rappelez-vous, l'ancien président d'EDF, Proglio, mais c'était incroyable. Quand il parlait, on aurait cru que c'était lui, le ministre. Et en plus, tout ce qui touche au nucléaire, ça ne se décide même pas au niveau du ministre de l'écologie, de l'industrie, etc. Ça se décide à l'Élysée. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là, avec tous ces gens-là qui sortent du corps des mines et qui font qu'ils ne veulent pas entendre la demande de la population. C'est pour ça que je trouve que nucléaire et démocratie ne va pas. Moi, j'ai créé NTW, Nuclear Transparency Watch, au niveau européen, avec toutes les ONG. Mais quand on voit les Français qui interviennent, mais ils ont un discours complètement atypique par rapport au reste. Les gens veulent savoir, veulent s'impliquer, veulent dire que, bon, là, ils sont pas d'accord qu'on installe des centrales, il y a d'autres alternatives. En France, ben, c'est quand même très difficile d'en parler. D'autant plus que je pense que c'est... Vous voyez, ce que je voudrais pas, c'est que je voudrais pas qu'on attende un accident nucléaire pour arrêter le nucléaire. Je voudrais que l'intelligence collective et que les gens se mobilisent plus. Vous voyez, on a fait des grandes manifs contre le gaz de schiste.
Aujourd'hui est apte, est capable et veut tout simplement payer l'électricité à son juste prix.
Ben écoutez, déjà, l'électricité telle qu'on la paye, elle n'est pas à son juste prix. Bon, donc de deux choses l'une, soit on dit on va diminuer la consommation énergétique par vraiment une politique d'efficacité énergétique, vous voyez, la rénovation de l'habitat, avoir des appareils qui consomment peu, etc.
Ne plus avoir de chauffage électrique dans chaque maison neuve, chaque appartement neuf.
Exactement, ça c'est typiquement français, il n'y a pas de chauffage électrique dans d'autres pays européens. On veut développer les voitures électriques. Moi, je suis pas contre, mais je veux pas que ça soit de l'électrique nucléaire. Il faut faire de l'électrique avec des énergies renouvelables. Vous voyez, c'est en France que le discours est confisqué, que la parole, et puis les gens ont l'impression que si on arrête les centrales, on n'aura plus d'électricité. Mais il faut regarder autour de, vous voyez, hors de la France. Enfin, les gens, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, ils ont bien de l'électricité sans avoir du nucléaire. Donc, moi, je suis vraiment pour l'innovation, je suis pour booster ces jeunes en disant, changer d'orientation, n'allez pas dans le nucléaire. Et, mais pour ça, il faut avoir des start-up, il faut avoir des entreprises qui investissent ailleurs.
L'avenir, rapidement, pour conclure sur le nucléaire français, on va en sortir finalement ou ça va durer encore très longtemps à cause de tout ce que vous avez dit, crise économique.
Mais moi, je pense que le nucléaire va mourir de sa propre mort par l'investissement que ça demande. On n'aura plus les moyens. Alors le tout, c'est que tous les salariés qui travaillent dans le nucléaire, il faut leur trouver des alternatives. Et c'est là où, vous voyez, il faut anticiper pour que, quand on va fermer une centrale, ben, ces gens-là, ils trouvent du boulot dans d'autres types d'énergie, mais des énergies d'avenir et non pas des énergies mortifères.
Michel ?
Alors sûrement le lobby nucléaire, ça ne devait pas vous occuper suffisamment. Donc vous avez... maintenant, vous prenez de front le lobby pharmaceutique. Hein, on ne sait jamais. Vous avez peur peut-être de vous ennuyer. Alors là, on a affaire aussi à un corps, à des intérêts puissants, à des corps constitués.
Oh là là, alors ça, c'est autre chose. Mais ça fonctionne de la même façon. Qu'est-ce qui m'a motivée pour m'intéresser au lobby pharmaceutique ? C'est le prix des médicaments. Vous voyez, il y a eu beaucoup de débats au Parlement européen où, par exemple, si vous avez une hépatite C, eh bien, le médicament, le sofosbuvir, qui est vendu par, d'ailleurs, un labo américain, c'est 40 000 euros, vous voyez, le traitement de 6 semaines. Eh bien, on a 200 000 personnes en France qui ont l'hépatite C. Eh bien, on ne peut pas les soigner. Ça fait exploser, si vous voulez, tous les comptes de la sécurité sociale. Et quand vous avez eu les Espagnols, les Italiens, tous les pays européens en disant « Mais voyez, ces nouveaux médicaments qui soignent, on ne peut pas les acheter parce que c'est carrément les laboratoires pharmaceutiques qui fixent le prix des médicaments. » Et dernièrement, il y a 3 jours, des cancérologues, il y a eu l'appel des 110 cancérologues en disant « Toutes les nouvelles molécules pour soigner le cancer, c'est 40 000, 50 000, jusqu'à 100 000 euros le traitement. » Mais moi, je dis à la ministre, à Marisol Touraine, notre ministre de la Santé, mais on a une arme redoutable qui est la licence obligatoire. C'est-à-dire que quand il y a un problème d'urgence sanitaire et les cancers, quand vous voyez l'épidémie des cancers, eh bien, on peut se passer du brevet et faire fabriquer la molécule par d'autres laboratoires.
Ça, on peut le faire sur tous les traitements existants ou sur certains en particulier ?
Ben, sur tous les traitements où il y a une urgence sanitaire. Et ça,
mais
même...
comment on définit l'urgence ?
Eh ben, par rapport au nombre de malades. Hein, et là, sur les cancers, il y a un nombre de malades incroyables. Seulement, c'est s'affronter directement au laboratoire pharmaceutique. Eh bien, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, comme les labos se sont infiltrés au niveau des cabinets ministériels, au niveau de l'administration, etc., qu'il faut un lobbying pas possible, eh bien, on dirait que les gens ont peur d'affronter les labos. Or, ces labos, c'est eux qui font le plus grand bénéfice. Hein, quand vous voyez que Sanofi, plus de 20% de bénéfices, ben, tous ces bénéfices sont distribués au niveau des actionnaires et non pas investis dans la recherche et développement. Donc, c'est une position dramatique vis-à-vis de la santé.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi avec nous, Michel Rivasi, et c'est Michel Guéroux qui pose la question.
Alors là, dans cette bataille, la nouvelle bataille, vous avez pris des coups de bâton, là, vous avez fait une fameuse tribune là, sur la question des antidépresseurs, vous vouliez les dérembourser, je ne sais plus quels étaient exactement les termes, alors on a dit Michel Rivasi déraille, elle perd le sens de la mesure.
Ah ben, c'est pas moi qui déraille, c'est les gens qui prennent ces antidépresseurs qui déraillent, dans la mesure où on s'est aperçu que certains antidépresseurs pouvaient entraîner des dépressions, des suicides, même des addictions, et que j'ai fait intervenir d'ailleurs des grands professeurs qui disent, mais en fait, quelle est la valeur ajoutée de ces médicaments ? Souvent, ces médicaments coûtent cher et ne soignent pas, et vous entraînent des effets secondaires qui sont plus dangereux. Regardez le Mediator, enfin, c'est incroyable. Et vous avez eu la complicité même des agences sanitaires françaises qui étaient infiltrées par les gens de Servier. Vous avez même, au niveau de l'agence européenne, des gens de Servier qui y bossaient et qui ont bloqué les effets secondaires. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas Michel Rivasi qui déraille, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui déraillent et la complicité des politiques qui déraillent. Et quand vous êtes, que ça soit, vous voyez, pour Tchernobyl, Fukushima, pour les médicaments, je dis aux gens, attention, vous prenez souvent trop de médicaments. Les médecins, il faut que vous ayez aussi une expertise indépendante. Lisez Prescrire, qui est ce journal qui est indépendant par rapport aux laboratoires pharmaceutiques, qui avait dénoncé depuis très longtemps ces médicaments qui n'avaient pas de valeur ajoutée. Et je dis aussi aux politiques, soyez plus vigilants, par rapport à la proposition de loi là, sur la santé, enfin le projet de loi sur la santé, qu'il faut avoir, il faut que les labos nous rendent des comptes, il faut que nos agences étudient plus les effets secondaires, il faut que les médecins fassent plus remonter les effets secondaires, parce qu'on ne peut pas comme ça se permettre d'avoir des médicaments si vous tombez malade après, quelques années après. Regardez sur les vaccins, on a demandé un débat sur les vaccins, et bien on s'est aperçu que Marisol Touraine est en train de bloquer le débat. Elle nous met un collège, si vous voulez, de gens qui vont poser des questions, puis un collège de professionnels de santé, un collège d'experts. Mais ce n'est pas ça un vrai débat. Et en plus, le président, enfin le secrétaire même, de la Conférence nationale sur la santé, qui devait organiser ce débat, comme il voulait qu'il soit très ouvert, eh bien on lui a dit pas question. Et donc c'est pour ça qu'il a démissionné.
Alors une question quand même, là, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent nucléaire, médicaments, et puis l'autre dossier qui vous préoccupe, rayonnement électromagnétique, Michel Rivasi et ses écologistes comme elle, ils sont obsédés par le principe de précaution, mais à les écouter, il faudrait tout arrêter, tout activité économique. On a une nouvelle responsable dans la région, la Maude Fontenoy, une écologiste, vous la connaissez bien.
Oh là là, pro-nucléaire, voilà, pro-gaz de voilà, schiste, pro-OGM. Elle a tous les défauts. C'est l'écolo zéro, mais zéro pointé. Quoi.
Mais elle rame bien. Elle rame bien. Elle rame bien. Longtemps.
Mais c'est pas parce que vous ramez que vous pouvez être écolo. Hein.
Alors, oubliant Maude, on en parlera si vous voulez tout à l'heure, mais sur cette question du principe de précaution et de comment on manipule ou pas cette notion-là. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre les gens là, à force de leur dire attention, il y a des dangers partout?
Mais non, mais écoutez, moi je suis vraiment hyper positive et je crois à l'intelligence collective. Je dis aux gens, regardez les écolos. On est des gens d'avant-garde et on est des gens pour l'intérêt général. Quand je vous parle du nucléaire, c'est vrai que je suis anti-nucléaire parce que j'ai vu la souffrance humaine. Et mais j'ai une alternative, c'est les énergies renouvelables qui apportent énormément d'emplois, qui apportent une qualité de vie. Bon. Après, vous me dites les médicaments. Mais moi, je suis pour la recherche. Quand je dis aux laboratoires pharmaceutiques, avant, vous aviez eu plus de 15% sur la recherche et le développement. Mais non, c'est même pas 8%. Vous mettez tout votre argent dans la communication. C'est pas de la recherche et développement. Et en plus, vos nouveaux médicaments, ils sont même pas innovants. C'est ce qu'on appelle des MeToo. C'est-à-dire, ils sont, par rapport aux médicaments qui existent, vous avez changé un petit quelque chose, mais il n'y a pas de valeur ajoutée.
Alors, je fais juste une parenthèse. Pardon,
c'est
on oublie.
Pas le même
recherche,
principe de précaution.
ITER. On n'a pas parlé d'ITER. Il faudrait le dire. Vous êtes contre ITER.
Mais parce qu'ITER, attendez, c'est
de la recherche
financière.
Je rappelle quand même aux auditeurs que les écologistes ont à l'époque passé un accord avec Michel Bozel pour accepter et pour voter ITER à la région.
Alors, ce n'est pas qu'ils ont accepté ITER, c'est qu'ils ont dit, si on investit dans ITER, il faut investir dans les énergies renouvelables. Donc, tout l'argent des collectivités territoriales, notamment de la région PACA à l'époque, qu'on donne pour ITER, il faut donner pareil pour les énergies renouvelables. Non. Bon, ça a été un deal qui a été fait. En tout cas, moi, je peux vous dire, sur le plan européen, ils sont en train de remettre un peu à question tout l'argent qu'on donne pour ITER. Parce qu'ITER, c'est un drôle de projet. Hein. C'est un projet de fusion.
C'est un pari, ITER.
C'est un pari. En plus, on demande aux Russes, aux Indiens, aux Japonais, aux Américains de faire des pièces d'ITER. Donc après, tout le problème, ça va être, vous voyez, de les mettre en place. Et par contre, l'Europe, elle donne du cash. Mais ça coûte une fortune. Et on aura les premiers résultats pas avant 2100. Vous croyez que d'ici 2100, on existera alors qu'il y a des priorités qu'on peut faire dès aujourd'hui sur le développement des énergies renouvelables? Moi, je voudrais dire aux auditeurs, les écolos, ce n'est pas des passéistes. Au contraire, ils veulent absolument développer, que ça soit l'énergie, que ça soit la qualité alimentaire, que ça soit la qualité au niveau des médicaments, mais en boostant là où il y a une valeur ajoutée. Pas en étant sur des principes qui nous coûtent une fortune et qui nous amènent à des impasses.
Est-ce que l'Union européenne parle d'une seule voix? Est-ce qu'elle est capable de parler d'une seule voix sur ces problématiques-là?
Alors, il y a
Parce
plusieurs choses.
On a vu, comme sur le médicament, pour prendre un exemple pour les auditeurs, c'est chaque État qui est souverain pour fixer, par exemple, le prix des médicaments.
Tout à fait. Et là, donc, chaque État est souverain et justement, moi, je ne comprends pas et j'ai fait plusieurs colloques là-dessus pour dire, au moins au niveau des États européens, entendez-vous. Si la France, l'Allemagne, l'Angleterre se lient pour dire, vis-à-vis d'un labo, si vous faites, si vous baissez pas le prix, on vous achète pas votre médicament, ils seront obligés de baisser, puisqu'on est des gros consommateurs de médicaments. Mais ils ne veulent pas s'entendre parce que chacun veut garder un peu son territoire. Donc il y a un manque de solidarité là-dessus, vous voyez, sur le plan européen. Sur l'énergie, à l'heure actuelle, les parlementaires européens, ils avaient quand même fixé Vous savez, les 3x20, diminuer de 20% les gaz à effet de serre, augmenter de 20% l'efficacité énergétique et augmenter de 20% les énergies renouvelables. Ça a été une orientation de l'Europe. Pourquoi ? Parce que quand on a les Russes, où on fait un embargo sur la Russie, eh bien, ils alimentaient énormément les anciens pays de l'Est. Et si on veut être indépendant, eh bien, c'est par les énergies renouvelables que vous l'aurez. Donc, ça, vous voyez, les idées écologistes, eh bien, elles commencent à passer de façon importante sur l'indépendance.
Les idées écologistes passent comme ça, mais en même temps, les vrais progrès ne sont que nationaux, puisque la France a interdit, par exemple, le bisphénol A, mais de son propre chef. Ce n'était pas une mesure européenne. Comment vous expliquez cette incapacité de l'Europe ?
Alors, le bisphénol, effectivement, la France a été assez leader, mais elle a été suivie après par la Commission européenne, puisqu'on a interdit le bisphénol dans les biberons. Par contre, on a un problème avec l'Europe, c'est que la France dit il faut l'éviter aussi dans les emballages, vous voyez, dans les conserves, alors que l'Europe ne veut pas le faire parce qu'on a une agence qui s'appelle l'EFSA, qui est une agence européenne, et qui est aussi bourrée de conflits d'intérêts au niveau de ses experts. On l'a sur les pesticides, vous voyez, on veut interdire le glyphosate, qui est un pesticide qui entraîne des dégâts incroyables d'un point de vue sanitaire. Eh bien, l'EFSA ne veut pas publier ses études données par les industriels. Et pourtant, ils disent, ben, c'est pas cancérigène. Et vous avez l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a utilisé des milliers d'études et qui dit que c'est cancérigène. Donc les parlementaires, vous voyez, se heurtent à la Commission parce qu'il y a plusieurs étages quand même. Hein. Vous avez les parlementaires qui sont assez, en général, très européens et, vous voyez, vont vers l'avenir. Enfin, pas tous les groupes politiques, mais enfin, on arrive à trouver des majorités. Mais la Commission, en ce moment, elle est très liée au lobby. Et on demande une transparence très importante vis-à-vis de ces lobbies qui sont en train, vous voyez, de nous manipuler. Puis vous avez les États. Et quand dans un État, vous avez de gros laboratoires pharmaceutiques, eh bien, l'État va défendre ses labos. Et elle ne défend pas l'intérêt général. On voit bien que la France défend son lobby nucléaire parce qu'elle a énormément de centrales. Et souvent, à l'heure actuelle, c'est souvent les États qui bloquent. On le voit bien sur les réfugiés, d'ailleurs. Hein.
On en
parlera
tout à
l'heure. Sur les réfugiés, c'est les États qui sont en train de bloquer, mais pas le Parlement européen.
Alors, une question, vous avez créé donc, le CRIREM, ce sont les rayonnements électromagnétiques. On parle de lobby, on touche à la téléphonie, propriétaire d'ailleurs des médias aujourd'hui en France, les marchands de téléphone.
Ah oui, alors ça aussi, c'est un lobby. Hein.
Ouais. Question là, mais par contre, tout le monde veut son portable, veut sa Wi-Fi. Enfin, est-ce que là, pareil, on ne vous ramène pas à contre-courant des logiques économiques et des usages et
mais, écoutez,
des usages de masse, on va dire.
Moi, j'ai un portable. Je ne vois pas comment je peux me passer d'un portable. Mais seulement, ben, y a un kit oreillette. Moi, je dis aux gens... et d'ailleurs, à l'heure actuelle...
Oui, mais il faut des antennes relais, il faut des...
Eh bien oui, mais les antennes relais, ben, il faut faire en sorte à ce qu'elles soient loin des habitations, voyez, et que le lot principal ne soit pas dans votre appartement quand vous y restez toute la journée. Il y a des alternatives. Moi, je suis pour la fibre optique. Vous voyez, moi, je suis pour Internet dans toutes les zones rurales, parce que c'est comme ça qu'on va faire en sorte à ce que les gens restent et que les jeunes restent dans les zones rurales s'ils ont accès à la fibre optique et donc à Internet. Donc moi, je suis vraiment pour des alternatives et je vais encore plus loin que les collectivités qui veulent souvent équiper les grandes villes, mais pas les zones rurales. Donc là-dessus, puis en plus, on a maintenant quand même des sentinelles qui sont les électro-hypersensibles. Alors moi, c'est vrai que je suis toujours sur des combats liés à la santé. Eh bien, ces électro-hypersensibles qui sont discriminés, qui partent
sont
avec...
pas reconnus.
Qui sont pas reconnus, mais qui sont reconnus dans d'autres pays européens. J'ai fait un gros colloque à l'Assemblée nationale. C'était plein à craquer. Il y a plein de personnes qui sont restées à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, vous avez des gens qui ne supportent plus les ondes électromagnétiques. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? On ne les reconnaît même pas comme personnes handicapées. Eh bien, en ce moment, j'ai à peu près obtenu, alors je vous le dirai ça le 29 mars, mais on a obtenu une zone dans les Hautes-Alpes où ces gens-là pourront se ressourcer. Et ça sera le premier laboratoire de recherche et d'accueil pour les électro-hypersensibles.
De quel côté, pour nos auditeurs qui connaissent le département des Hautes-Alpes ?
Ah ben c'est à Saint-Julien-en-Beauchesne, où là, la caisse d'allocation familiale nous fait un bail sur des locaux qui accueillaient des enfants et qui ont un bruit de fond qui est très bas par rapport à la pollution des ondes électromagnétiques. Ben si ça se fait, vous voyez, j'ai créé la CRIRAD en 86, ben là, ça sera le premier lieu où les gens pourront se ressourcer, mais en même temps, on fera de la recherche pour mieux comprendre pourquoi ces gens-là deviennent électro-hypersensibles. Mais c'est un vrai problème de santé. J'espère que vous, qui êtes entourés d'ondes comme ici dans ce studio, eh bien, un jour, ben, vous pouvez déclencher déclenché. Et alors là, eh ben moi, je serai là pour vous dire, on va essayer de vous aider, on va essayer de vous traiter. Et ce qu'on veut aussi, c'est diminuer la pollution électromagnétique. Parce que ces électro-hypersensibles, il y en a de plus en plus. On pense que c'est 3 à 4% de la population. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable du tout. Eh bien, ces gens-là, ben, il faut que... Un, on puisse les soigner, mais surtout faire en sorte à ce qu'il y en ait de moins en moins. Et pour qu'il y en ait de moins en moins, il faut diminuer cette pollution électromagnétique.
Alors on a vu que les choses avancent malgré tout, même si c'est difficile.
Ça demande beaucoup d'énergie renouvelable.
Même s'il y a des lobbying. Oh, il y a quelques temps de ça, la COP21, ici en France et à Paris. 100 milliards de dollars d'aide pour les pays en développement pour qu'ils puissent combattre les émissions de CO2. 100 milliards, Michel Rivasi, on est dans l'incantatoire là. Où on va trouver cet argent ?
Eh ben, c'est toute la problématique. Tout le monde est d'accord pour dire on va trouver 100 milliards, mais encore faut-il les trouver. Donc, il y avait plusieurs propositions, que ça soit d'abord sur le plan européen, avec une TVA, avec la taxation des transactions financières, avec... Mais pour l'instant, ils se sont pas mis d'accord. Et que je peux vous dire que les pays africains, ils attendent ça. Vous voyez, pour qu'il y ait un transfert de technologie qui passe pas, par exemple, par rapport à des centrales thermiques hyper polluantes. Donc, ils ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle la résilience, c'est le grand mot à la mode, d'une adaptation en fonction de, justement du changement climatique. Parce que quand vous aurez l'augmentation de sécheresse, vous voyez, on lutte contre la migration, les réfugiés et tout. Mais combien de réfugiés climatiques on va avoir ? Et quand on voit que l'Europe met des barbelés, des frontières, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mourir sur place.
Avec potentiellement, peut-être demain, on touche du bois, des réfugiés nucléaires aussi.
Eh ben, exactement. Alors, d'une part, des réfugiés nucléaires, d'autre part, des réfugiés climatiques, et d'autre part, des réfugiés de guerre. Et on voit ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Libye. Donc, vous voyez qu'on ne peut plus raisonner à notre petite échelle. Moi, je suis très pro-européenne, mais une Europe qui soit inclusive, et puis qui anticipe les problèmes. Il faut donner 100 milliards, voyez, et regarder aussi cet argent, qu'est-ce que ça, où ça va aller, en quoi ça va aider ces populations qui vont être impactées par le réchauffement climatique. Il faut le suivre de près, mais il faut que les pays s'engagent, parce que s'ils ne le font pas maintenant, après ça va être trop tard. Ça va être la guerre après, parce que vous n'allez jamais empêcher quelqu'un, et moi je me dis que si ça m'arrivait, je me trouvais en Syrie avec mes enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, etc., ben je ferais comme les Syriens qui migrent. Donc il faut que les gens deviennent solidaires. La solidarité, c'est la construction de la paix de demain.
Alors, on entre dans la dernière partie de l'émission. Avant de parler des phénomènes un peu de fusion et de fission au niveau de l'écologie politique en France, un dossier local que vous avez suivi, Alteo. Oh, il y a la ministre de l'écologie,
Ségolène Royal,
oui, qui vient, qui se déplace là, dans la région et qui a pris des positions, mais qui n'ont pas été suivies évidemment par le gouvernement, en tout cas jusqu'au bout, vis-à-vis de ce dossier. Et puis on a aussi un député écologiste, Lambert, pour le citer, qui est plutôt favorable au choix qui a été fait de maintenir Alteo et ses rejets liquides aujourd'hui, dans le parc national des Calanques. Alors là, vous êtes assez colère.
Ah oui, moi je suis très colère. Pourquoi ? Parce que, on avait un arrêté de 96 qui demandait qu'en décembre 2015, plus aucun rejet dans la mer, et notamment quand même dans le parc national des Calanques, qui est un bijou. Hein. Et on se dit, mais comment on a pu mettre plus de 2 millions de mètres cubes de ces boues rouges qui stérilisent complètement la vie et la biodiversité ? Donc il y a une incompatibilité. Alors deux choses l'une. Pourquoi Alteo n'a pas investi sur ces effluents ? Parce qu'il y a des effluents liquides et des effluents solides. Alors, il a investi grâce à l'État, hein, parce que toutes les presses, vous voyez, pour enlever la partie solide ont été à moitié financées par l'État. Mais sur les effluents liquides, il est en train de nous dire « Ah, mais c'est pas dangereux, etc. » Or, c'est bourré de métaux lourds. Et quand on a fait des études sur les poissons, eh bien, ça dépasse les normes sur le mercure, sur l'arsenic, sur le cadmium. Et après,
bon
ces
appétit
gens-là,
pour ceux qui dégustent une bouillabaisse à leur...
Il faut qu'ils regardent d'où ça vient. Parce que je trouve ça scandaleux.
En même temps, Alteo, il faut quand même dire qu'ils ont investi 20 millions d'euros pour être en conformité avec les obligations européennes d'arrêter les rejets en mettant des filtres notamment. Ils font des choses, ça bouge.
Ils font des choses, non, ils enlèvent juste la partie solide par les presses. Hein. Sauf que c'est cette partie solide, vous allez la mettre où ? Regardez comment ça s'appelle, dans un endroit on a mis toutes ces boues rouges et avec le vent, ces particules, vous voyez, partent et il y a des problèmes sanitaires au niveau des riverains. Donc là où on est très ennuyé au niveau d'Alteo, c'est Il y a eu un arrêté qui a dépassé Ségolène Royal. Vous savez qu'on a fait un recours hiérarchique. Pourquoi ce recours hiérarchique ? C'était de la compétence de Ségolène Royal. Or, Manuel Valls s'est passé au-dessus en faisant passer cet arrêté pour leur donner 6 ans supplémentaires. Donc, on a dit à Ségolène, écoute, c'est ta compétence, le Premier ministre n'avait pas le droit de le faire. Et on a eu gain de cause. Donc, on va voir si, jusqu'au 1er avril, elle a jusqu'au 1er avril à revoir cet arrêté. Soit elle leur donne 2 ans en disant, vous avez 2 ans maintenant pour vous mettre en conformité et arrêter tous ces effluents, parce que Alteo avait aussi la possibilité de récupérer ces métaux lourds. C'était son problème. Ou alors, on dit, eh ben, c'est une industrie qui est incompatible avec les normes actuelles. Parce que, quand même, il faut que les gens sachent que cette bauxite, elle vient de Guinée. Hein, avant, la bauxite, elle venait, vous voyez, de notre région. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Alors, vous allez me dire, il y a des centaines d'emplois. Oui, mais il y a des centaines d'emplois aussi par rapport à l'écotourisme. Si on parle d'emploi, ben moi, je préfère qu'on développe de l'emploi en disant aux gens, on a un super site au niveau des Calanques, etc. Et venez avec tout ce qui est chambre d'hôte, hôtel, restauration, etc. Ou alors on dit, on va préserver une industrie qui n'est plus du tout aux normes. Pour faire de l'alumine, alors qu'on peut le faire ailleurs.
La problématique, c'est aussi celle du pollueur-payeur, puisque Alteo, finalement, vous avez dit que c'est l'État qui avait financé, et c'est l'État qui financera éventuellement la dépollution ?
Ah non, non. La dépollution. Financer la dépollution, je ne vois pas comment on peut faire, hein, parce que ces 2 millions, c'est dans la faille de Cassidaigne, je ne vois pas comment on peut les ressortir. Donc, ce n'est pas possible. Mais c'est quand même à Alteo à trouver des moyens, vous voyez, pour épurer ces rejets. Et quand il y a eu le 9 mars,
la rupture de canalisation.
Où il y a eu une rupture, on vous a dit que ce n'est pas un problème. Eh ben, attendez, le maire, il a nettoyé parce qu'il y avait des cristaux de soude, et la soude, c'est hyper irritable, ça vous brûle la peau, etc. Donc vous voyez qu'en plus c'est vieux, cet émissaire de 57 km, ça va péter du jour au lendemain, et ces effluents, ben, ça vous a fait un nuage. Heureusement que c'était la nuit, mais le matin ils ont nettoyé les écoles, ils ont nettoyé les rues, même les façades des maisons, parce qu'il y avait cette soude qui est quand même très dangereuse.
Allez, un dernier dossier qui a un impact sur la région, c'est la question du schiste, du gaz du schiste, avec une autorisation d'explorer qui va peut-être être accordée, je crois. Il y a un permis qui court sous le Vaucluse et qui pourrait aller, enfin, une partie du Luberon.
Alors, il y a 2 choses. Il y a à la fois les gaz de schiste. Alors, les gaz de schiste, bon, on a gagné quand même une première étape. Il y a eu cette loi qui a été adoptée en 2011 et qui a interdit la fracturation hydraulique. Sauf que on a obtenu gain de cause sur Schwedbar, qui est une entreprise pétrolière américaine. Mais Total, il n'avait pas dit qu'il allait utiliser la fracturation hydraulique. Et donc, il a obtenu gain de cause puisqu'il y a eu annulation de l'abrogation des permis. Mais là où on va gagner, c'est que ce permis, il fallait qu'il demande le renouvellement, ils ne l'ont pas fait. Donc, il va falloir qu'il fasse une nouvelle demande avec enquête publique, etc. Là où je suis quand même plus pessimiste, c'est par rapport au forage en mer Méditerranée. Parce que là, vous avez Abyssea qui veut faire des forages en utilisant, vous voyez, on va faire de la recherche. Et là, c'est pour exploiter le pétrole. Et il y a d'autres forages aussi parce qu'il y a des permis qui ont été accordés. Et ça, pour moi, c'est dramatique parce que cette mer Méditerranée, elle est hyper fragile. Et là, elle fait vivre des milliers de gens. Par rapport à l'emploi, au tourisme, aux hôtels, etc. Si jamais il y a un problème au niveau d'une plateforme pétrolière, vous imaginez la conséquence. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner à court terme. Il faut absolument bannir toutes ces explorations, d'autant plus que tout à l'heure on a parlé de la COP21. Il faut laisser les 2/3 des énergies fossiles dans le sous-sol. Qu'est-ce qu'on va exploiter en mer Méditerranée ? Du pétrole. Alors qu'il faut qu'on sorte de cette addiction au pétrole.
Avec peut-être du gaz aussi. Hein.
Avec peut-être du gaz, mais
Il faut du gaz pour remplacer le nucléaire, si on vous suit tout à l'heure. C'est moins polluant que
le gaz sera une période de transition, mais on peut faire du gaz avec la biomasse, avec la méthanisation. Vous voyez, on peut faire du gaz de façon différente que d'exploiter du gaz en tant qu'énergie fossile à l'intérieur du sous-sol.
Europe Écologie Les Verts, l'écologie politique en France, à vous écouter depuis le début de cette émission, vous êtes quand même très critique vis-à-vis du bilan environnemental de ce gouvernement et voilà, votre secrétaire national, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Emmanuel Kos, contre l'avis de son mouvement, rejoint le gouvernement avec d'autres ministres.
Pseudo-écolo
pseudo-écolo, mais dont Vincent Placé, par exemple, qui était le président du groupe vert au Sénat il n'y a encore pas très longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces sujets dont vous parlez intéressent les gens et l'écologie politique semble impuissante à incarner politiquement toutes ces revendications.
Non, mais il y a deux choses. Moi, je suis profondément écologiste. Je me bagarre depuis 30 ans là-dessus. Et il y a énormément de militants écolos qui se bagarrent sur le terrain, qui ont fait évoluer des politiques. Moi, je le vois au niveau de la région, au niveau des départements et alors surtout au niveau des collectivités territoriales. Donc là, il n'y a pas photo. Les écolos sont présents partout.
C'est le meilleur parti pour faire de l'écologie ? Parce qu'on rappelle qu'avant, vous étiez chez les socialistes.
J'ai été apparenté socialiste. Parce que j'avais été co-présenté à la fois par les socialistes et par les Verts, sans être membre ni de l'un ni de l'autre, d'ailleurs, quand j'étais députée à l'Assemblée nationale. Donc, voilà. D'un point de vue basique, je dirais que quand il y a des mouvements, vous voyez, pour sauvegarder la santé des gens, sauvegarder l'environnement, etc., il y a toujours les écolos. On a une crise terrible en ce moment dans notre parti. Parce qu'on avait des gens comme Jean-Vincent Placé, comme Cécile Duflot, comme Emmanuel Kos, tout ça, qui ont été mis, si vous voulez, à la tête de ce parti. Et on a vu que là, c'est plutôt des ambitions personnelles qui étaient prioritaires plutôt que les fondamentaux de l'écologie politique.
Ça, c'est un peu l'ADN du parti écologiste, les ambitions personnelles. Parce qu'il y a eu Voynet avant.
Ma mère, c'est pareil. C'était des gens qui avaient été désignés pour nous représenter. Mais ma mère n'est jamais partie après au Parti Socialiste.
Duflot n'a pas fait un coup d'État. Elle a été désignée aussi.
Mais Duflot, elle a été désignée. Là où ça a été plus problématique, c'est quand elle a démissionné. Parce qu'elle a démissionné avec Pascal, Canfin, alors que le parti n'était pas averti. Bon. Mais bon, Pascal Canfin a fait un bon boulot. Bon, Cécile a fait aussi un bon boulot sur le logement. Mais je trouve que ce qu'a fait Emmanuel Kos en tant que secrétaire national, où le bureau exécutif a dit non, on ne part pas dans ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement de renoncement vis-à-vis de l'écologie. Il ne faut pas y aller. En un an, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Plutôt que de se discréditer, il ne faut pas y aller. Eh bien, elle y est allée contre l'avis quand même du parti, que Jean-Vincent Placé, de toute façon, il avait quitté le parti avec Barbara Pompili. Donc ça, ce n'était pas un problème. Mais là, vraiment, on traverse une crise. Et je voudrais donner un message à tous ces gens qui se bagarrent sur l'écologie, qu'il faut que, au niveau de ce congrès, parce que ça va être ça l'échéance mai-juin, c'est le congrès des Verts, qu'on redynamise une équipe qui soit authentique sur ses batailles, sur ses mouvements, sur l'élargissement aussi de l'écologie. L'écologie, c'est pas que de l'environnement, c'est aussi la partie sociale par rapport à la distribution des richesses, c'est aussi la qualité de vie, c'est aussi la qualité au travail. Vous voyez, on dit souvent l'écologie, c'est le nucléaire, c'est le bio, etc. Mais non, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est ça l'avenir. Donc il faut refaire une nouvelle gouvernance, une nouvelle équipe, vous voyez, qui se bagarre par les tripes et puis par le combat, par le cœur, par l'humain, plutôt que ces gens qui veulent faire que leur promotion personnelle.
Vous seriez candidate, vous, prendre la tête du parti ?
Ah ben écoutez, moi je lance une opération au niveau du parti. Alors je ne peux pas être secrétaire nationale parce que je suis députée et que là il y a des... vous voyez, on ne peut pas cumuler. Mais vraiment, je voudrais qu'on ait une nouvelle équipe, vous voyez, qui porte les valeurs de l'écologie, qui soit beaucoup plus proche des ONG, du milieu associatif, parce que c'est ensemble qu'on va trouver une solution. Vous voyez, la vérité, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est ensemble, vous voyez, sur ces valeurs-là qu'on va pouvoir construire une société meilleure. Et quand je pense au présidentiel, je me dis, si on va se trouver avec Sarko-Juppé, encore Hollande, et puis Marine Le Pen, et qu'il n'y ait pas des écologistes qui portent ces valeurs, parce que c'est nous l'avenir. C'est pas ces has-been là qui nous amènent, voyez, au niveau des impasses, qui font que on va privilégier le néolibéralisme et que les entreprises vont pouvoir faire ce qu'elles veulent, bien que moi je suis très pro-entreprise, mais en tant qu'écosystème, où tout le monde apporte sa valeur au niveau du fonctionnement d'une entreprise. Et là, je me dis qu'ils ne sont plus dans le nouveau monde. Ils ne sont plus, vous voyez, avec les nouveaux enjeux, les nouveaux défis auxquels il faut correspondre. Alors, soit Nicolas Hulot va y aller, et on sera derrière lui. Et s'il ne veut pas y aller, ben, il faut absolument qu'un écologiste représente ses valeurs. Il faut renouveler l'appareil politique.
Je vous pose la question, alors vous, vous iriez ?
Eh bien écoutez, on va lancer des primaires au niveau des écologistes, on verra bien. Mais moi je pousse à ce que Nicolas Hulot...
Vous seriez candidate aux primaires ?
Ah oui, moi je serai candidate aux primaires des écologistes, hein, aux primaires des écologistes, et puis après on verra bien ce qui va se passer.
Oui, parce qu'il y a aussi un débat, y compris porté par Daniel Combanet, dont vous dites régulièrement quand même du bien,
oui.
Un débat qui consiste à dire qu'il ne faut pas que les écologistes y aillent tout seuls, mais, parce que ça ferait trop de dispersion vu la donne politique du moment. Donc là, je ne sais pas ce que vous nous dites à l'antenne. Vous dites qu'il faut qu'il y ait une candidature, il faut qu'il y ait une incarnation écologiste, et pas d'une gauche par exemple... d'une gauche radicale ou d'une,
mais écoutez,
ou d'une mouvance plus large.
Ce qui est terrible...
Vous questionnez sur ces...
mais c'est des questions tout à fait légitimes. Mais je me dis que s'il n'y a pas des écologistes qui peuvent drainer plus large, parce qu'il ne faut pas que l'écologie soit seulement au niveau de la famille écologiste. Si vous portez un projet et que ce projet est partagé, que, vous voyez, il y a une personne charismatique et capable de dire, ben voilà où je vais vous amener, voilà comment ensemble on peut rénover notre système français qui est quand même très cloisonné, qui fonctionne par casse, etc., eh bien, on pourra donner un espoir. À l'heure actuelle, je ne fais pas confiance au niveau des politiques actuelles, parce que je trouve, comme je vous ai dit, ils sont has-been, ils n'ont pas compris le changement de monde. Ils sont toujours sur l'augmentation des inégalités. Ils sont toujours sur une espèce d'oligarchie où c'est une élite qui dirige le peuple. Eh bien, ça ne marche plus comme ça. Moi, je suis pour la démocratie. Je suis pour redonner le pouvoir aux citoyens, pour qu'il y ait beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de référendums, et qu'on avance ensemble sur un projet de société. À l'heure actuelle, avec François Hollande, je ne sais pas où il va. Je ne sais pas quel est son projet. Je vois que plein de gens de gauche sont hyper déçu par
rapport
à sa gouvernance.
Vous diriez, vous, par exemple, comme l'a dit, comme l'a écrit plutôt Cécile Duflot dans son livre, Hollande est le président de personne ?
Et le président de personne ?
Oui.
Mais regardez ses résultats, regardez sa notoriété, regardez... à l'heure actuelle, les gens ne vont plus voter. Il faut redynamiser, parce que la France... Alors moi, quand je compare à l'Europe, il y a une culture politique en France. Les gens, si vous voulez, ils bouquinent, ils vont dans les réunions. On l'a vu d'ailleurs pour le traité européen. Mais seulement, ils n'y croient plus. Et en plus, moi, j'ai pas envie de me retrouver dans une seringue avec Marine Le Pen, qui est terrible sur le plan européen, je peux vous dire. Elle est, c'est une femme qui porte la haine, même s'il y a une dédiabolisation du FN. Mais vous vous rendez pas compte le discours qu'elle tient sur les Français. Quand il y a eu François Hollande et Mme Merkel, et qu'elle a osé dire, hein, M. Hollande, vice-président, et que c'est Mme Merkel qui gouverne, mais j'avais honte en tant que Française. Je dis, mais comment elle peut dire, il faut redonner, si vous voulez, une image de la France, et qu'elle, elle attaque notre président, même si on n'est pas d'accord avec sa politique. Mais ça ne se fait pas. Donc, j'ai pas envie de me retrouver avec des gens comme ça, et avec des sarkozistes, ou avec un Hollande qui n'a rien compris au film.
Donc, pour résumer, pour conclure cette émission, vous ne soutiendrez pas aux prochaines présidentielles François Hollande, et vous, Michèle Rivasi, vous allez être candidate à la primaire écologiste pour la présidence de la République.
Voilà,
peut-être
tout à
candidate.
Fait. Voilà, c'est une bonne, c'est un bon résumé.
Je vous remercie, allez, on se retrouve au mois prochain. Bye, lisez le Ravi.